orientation et conduite.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Bonsoir à tous et bienvenue dans l'Amérique et vous, Eric Maninakiza en votre compagnie, Lionel Lunanilagahima sur la mise en onde. Ce soir, nous parlons de l'investiture de Joe Biden et des attentes. Joe Biden a été investi 46e président des États-Unis, Kamala Harris, également investi 49e vice-président américain. C'était lors d'une cérémonie sans précédent marquée par la pandémie et l'assaut meurtrier du Capitole le 6 janvier par des partisans du président Donald Trump. Joe Biden et Kamala Harris ont prêté serment peu avant midi au Capitole devant le vice-président sortant Mike Pence, des ex-présidents Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton, mais en l'absence de Donald Trump. Que peut-on attendre de la nouvelle administration? Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Thiello, professeur de français et des études francophones à McAllister College dans le Minnesota. Bonsoir.
Bonsoir Eric et bonsoir à vos autres invités aujourd'hui.
Marcelin Kofi Allais, conseiller principal de l'administrateur pour l'Afrique au FMI. Il s'exprime dans cette émission à titre personnel. Bonsoir.
Bonsoir Eric, merci de me recevoir sur vos antennes et bonsoir à mes deux co-invités.
Le professeur Edgar Colley, ancien du Monterey Institute of International Studies en Californie. Bonsoir.
Bonsoir, très heureux d'être avec vous et bonsoir à mes co-invités aussi.
Je vais commencer avec vous, Joël. Êtes-vous rassuré par l'avènement de l'administration Biden-Harris?
Bon, ce serait difficile de ne pas l'être, je dois dire. Je ne pensais pas être aussi émue par cette investiture. C'est là où on a pris la mesure du poids qu'ont représenté les quatre dernières années en termes de traumatisme, en termes de violence et en termes de vulgarité. Parce que l'image que je garde des derniers jours, de la soirée de mercredi et de la journée d'hier, c'est une journée où les discours avaient du bon sens, où il y avait de la générosité, il y avait de l'espoir, et il y avait de l'élégance également. Toutes sortes de choses qui me semblent qu'on avait un peu oubliées ces quatre dernières années. J'ai aussi retenu beaucoup la présence des femmes, que ce soit celle de Kamala Harris ou de Amanda Gorman, et même du docteur Jill Biden. Journée importante.
Edgar?
Oui, absolument. Et comme je rejoins ce que vient de dire notre collègue, il y a eu, n'est-ce pas, un changement dans le ton et dans la forme et aussi dans le discours. Et bien entendu, on ne se fait pas trop d'illusions, mais pour un départ, je crois que cela donne quand même une certaine délivrance. 4 ans, c'était trop lourd, c'était trop pesant. Et évidemment, c'est une forme de bouchée d'air que nous avons reçue hier à l'investiture de Joe Biden et Kamala Harris. L'avenir nous dira ce que cela va donner, mais au départ, je crois que c'est un grand soulagement. Moi, j'ai quand même un espoir conscient, mais quand même un espoir que l'avenir sera beaucoup meilleur que ce que nous avons vécu.
Marcelin, est-ce que ça a été aussi votre sentiment?
Oui, Eric, j'abonde dans le même sens que Joël et Edgar. On a vécu 4 années avec beaucoup de soubresauts qui ont culminé le 6 janvier dernier en cet assaut sur le Congrès. Et hier, les tons étaient différents. Et je pense que l'avènement de Biden et Harris donne beaucoup d'espoir en un changement. Mais nous restons prudents, notamment nous autres Africains. Nous restons prudents et on attend de voir la politique étrangère de l'administration Biden, notamment vis-à-vis de l'Afrique. C'est à ce niveau que nous allons juger.
Aussitôt investi, aussitôt au travail, Le président Joe Biden a signé ce mercredi 17 décrets prenant le contre-pied du président sortant Donald Trump. Jeudi, dans l'après-midi, il a signé d'autres décrets. Professeur Colli, est-ce un bon ou un mauvais départ?
Oui, je crois que dans l'ensemble, c'est un bon départ. N'est-ce pas, les États-Unis vont rejoindre l'accord de Paris sur le climat, on va arrêter la construction du mur au niveau de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, pour ne citer que quelques décrets. Je crois que c'est un bon départ, cela donne, n'est-ce pas, comme je disais tout à l'heure, l'image d'un changement de politique, d'un changement d'orientation. Je crois que les Américains attendaient et avec beaucoup de trépidation, quels seraient les premiers actes de Joe Biden. Et je crois que ces premiers décrets, n'est-ce pas, indiquent un peu le futur, comment l'administration Biden compte gérer le pays sur le plan économique, sur le plan de la pandémie, sur le plan social.
Est-ce durable dans la durée? Plusieurs décrets quand même.
Oui, l'avenir nous le dira. Un décret demeure un décret. Ce n'est pas une loi qui a été promulguée par le Congrès, mais c'est quand même, n'est-ce pas, cela fait partie des prérogatives du président de la République. Nous verrons si ce sera durable, si certains vont contester les décrets, mais pour le moment, je crois que c'est un signal fort et un signal positif.
Joe Biden s'est engagé à renouer avec l'OMS et à participer à la réponse internationale à la pandémie. Moussa Faki Mahamat, qui préside la Commission de l'Union africaine, s'est dit ravi de cette décision. Marcelin, est-ce que vous pensez que c'est aussi dans l'intérêt de l'Afrique?
Oui, le retour des États-Unis sur la scène internationale pour rejoindre et participer à toutes les initiatives internationales qui vont dans le sens du bien public international, on ne peut que saluer ce retour. Et l'Afrique, faisant partie de ce monde globalisé, forcément va tirer les bénéfices donc de cet effort commun auquel les États-Unis donc se joignent. Donc, plus de multilatéralisme ne peut pas être négatif. Au contraire, plus de multilatéralisme, c'est quelque chose de positif pour le monde entier. Joindre toutes les forces, notamment celle d'une puissance comme les États-Unis, aux autres forces, pour apporter des réponses aux problèmes globaux qui se posent à l'humanité, je dirais. On ne peut que saluer cela et l'Afrique, comme les autres continents, forcément vont y gagner.
Kamala Harris entre dans l'histoire américaine en devenant la première femme vice-présidente des États-Unis, aussi une femme de couleur. Est-ce que son ascension va-t-elle renforcer la place de la femme dans la société américaine et en Afrique en particulier, Joël?
Bon, alors, je ne sais pas si l'avance d'une femme à la vice-présidence américaine va aider l'ascendance des femmes dans la politique africaine, mais aux États-Unis, oui, j'espère que c'est une porte qui s'ouvre enfin. Et je pense d'ailleurs à la jeune poète qui a lu ce texte si émouvant avec beaucoup de puissance et beaucoup de grâce aussi. Amanda Gorman a été bien claire qu'elle rêve de devenir présidente éventuellement.
On a vu des femmes présidentes en Afrique, présidentes aussi de la Commission de l'Union africaine. Est-ce qu'on peut dire que l'Afrique était en avance par rapport aux États-Unis?
Oui, absolument. Je pense que c'est vrai. Il y a eu des femmes dirigeantes aussi en Europe. C'est vrai qu'étant donné la place qu'occupent les États-Unis sur la scène internationale, c'est déjà bien tard. Il y a eu des efforts en France, il y a eu des efforts aux États-Unis, mais qui n'ont pas abouti pour les femmes. Mais il faut dire que ça fait tout de même longtemps que les femmes se présentent aux élections présidentielles américaines. En 1970, il y avait déjà une Africaine-Américaine, Shirley Chisholm, qui s'était présentée avec un mandat à la fois antipatriarcal et antisuprémaciste. On sait que Angela Davis a été plusieurs fois candidate à la vice-présidence, Winona LaDuke, une amérindienne aussi. Donc c'est le succès, c'est l'élection qui va changer la donne, bien sûr.
Marcelin, voir Kamala Harris devenir vice-présidente, est-ce que ça a changé quelque chose en vous dans la manière de voir la politique américaine?
Oui, oui et non. Non, parce que vivant dans ce pays depuis quelques années déjà, et voir tout ce que les femmes ont accompli ici dans ce pays. Je veux dire, il était naturel et normal qu'un jour on voit une femme à ce niveau de responsabilité. Donc je n'ai pas été, je veux dire, surpris. Je veux dire, j'approuve ce signal fort et c'est un accomplissement important et majeur. C'est vrai que les femmes sont sur la scène politique américaine depuis longtemps. Elles ont été à l'avant-garde de beaucoup de transformations positives dans la société américaine, mais elles n'avaient pas encore, en termes de responsabilité, atteint ce niveau-là. En cela, donc, il faut saluer cet accomplissement et espérer voir de plus en plus de femmes à ce niveau de responsabilité, à la vice-présidence, à la présidence. Comme on le dit, la compétence n'a pas de sexe, la compétence n'a pas de genre, la compétence n'a pas d'ethnie, de race, de couleur. Et donc, il est normal que toutes les composantes de la société, hommes, femmes, puissent donc atteindre ce niveau de responsabilité et apporter leur contribution donc à l'avancement de la société.
Professeur Colli, avoir une femme vice-présidente, est-ce que ça va changer la manière de conduire des affaires publiques ici aux États-Unis ou c'est juste symbolique?
Il y a un élément de réponse des deux côtés. Nous savons très bien que le vice-président aux États-Unis n'a pas nécessairement un pouvoir très fort, mais c'est quand même assez important. Il faut voir dans le choix de Mme Harris une femme, une minorité raciale, c'est aussi une image qui représente un peu la culture et la société américaine. Aujourd'hui, une jeune fille noire, une jeune fille d'origine indienne qui regarderait Kamala Harris pourrait se dire, demain, pourquoi pas moi, comme c'était le cas avec Mademoiselle Gorman, la jeune fille qui a récité son poème. Donc, je crois que le symbolisme ici est très fort. Et aussi, pour rejoindre ce que disait notre collègue tout à l'heure, les femmes au niveau de la vie politique aux États-Unis ont joué un rôle prépondérant depuis de longues années. Regardez, n'est-ce pas, combien de femmes ont été élues au Congrès l'année dernière ou l'année d'avant. Et donc, nous avons ici une représentativité qui atteint, n'est-ce pas, un certain stade avec le choix de Mme Harris. C'est important comme symbole et c'est aussi, n'est-ce pas, un signe d'espoir pour les générations futures.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Vous suivez l'Amérique et vous, Eric Manilakiza, toujours en votre compagnie. Lionel Lunanila Gahima assure la mise en onde. Joël Vitiello, le docteur Anthony Fauci, nommé conseiller de Joe Biden, a déclaré que son patron révoquerait la règle utilisée par son prédécesseur et d'autres administrations républicaines pour interdire aux organisations caritatives étrangères d'utiliser les fonds fédéraux américains pour proposer des services d'avortement. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, pour la décision du Dr Fauci, oui, il y a cette recommandation qui me paraît absolument raisonnable. Il ne faut pas oublier que quasiment la veille de l'investiture ou le jour de l'investiture de Joe Biden, la Cour suprême a aussi rendu quasiment impossible l'utilisation de médicaments qui facilitent un avortement relativement facile pour des femmes américaines qui doivent se rendre en personne prendre des médicaments, donc pour certaines qui doivent conduire des centaines de kilomètres. Donc il va falloir réexaminer toutes ces questions et évidemment le président a le droit de ne pas enforcer la résolution de la Cour suprême, n'est-ce pas? Alors pour l'international, oui, je pense que c'est important qu'il y ait ce que nos co-invités ont appelé l'accompagnement, une nouvelle approche à la coopération, un certain sens des réalités de chaque contexte. Il ne faut pas oublier que les femmes sont la colonne vertébrale de toutes les nations, sur tous les continents, et qu'elles ont leur choix à faire. Par rapport à la démocratie, je dirais qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir élu une équipe, il faut maintenant la tenir responsable de ses promesses, de ses désespoirs de la population qui les a portées au pouvoir, et que la démocratie se réalise aussi ici, qu'une nouvelle approche soit possible. Déjà, je pense que les décisions au sujet du climat, de l'immigration vont pouvoir peut-être déjà changer l'approche au développement économique et au fait que l'international en général va peut-être sortir d'approches néocoloniales. Et donc, j'espère que Samantha Power aura le pouvoir de transformer profondément l'approche de USAID en général et son approche quelquefois trop interventionniste dans certains pays.
Professeur Colli, les États-Unis sont un pays profondément divisé maintenant. Et en termes de démocratie, que faire au niveau des républicains? Que faire au niveau des démocrates?
C'est la grande question. Je crois que, en fait, si je veux être pragmatique et aussi réaliste, je crois que les deux blocs vont peut-être un peu s'arc-bouter chacun de son côté. Il y aura certains républicains, certains démocrates relativement modérés qui vont essayer de collaborer pour le bien-être national. Je crois que pour des positions électoralistes, certains risquent de s'arc-bouter et de rester dans leur coin. N'oubliez pas que, n'est-ce pas, la base républicaine qui a massivement voté pour Trump, les membres du Congrès ou ceux qui pourraient se présenter dans 4 ans à la présidence voudraient récupérer cet électorat. Les démocrates qui aujourd'hui contrôlent avec une petite majorité le Sénat ne voudraient pas aussi trop laisser du lest au risque de perdre, n'est-ce pas, leur électorat non plus. Aussi, je pense qu'il y aura beaucoup de positionnement des uns et des autres. La démocratie américaine étant ce qu'elle est, la division qui existe, elle ne sera pas effacée du jour au lendemain. Il faudra beaucoup de travail. Joe Biden a déjà lancé l'idée, il a déjà tendu la main aux électeurs de Trump ou aux républicains. Est-ce qu'ils vont répondre? Combien d'entre eux vont répondre à cet appel à l'unité? Cela reste à voir, mais je pense que les prochaines années vont nous édifier là-dessus. Personnellement, je ne me fais pas trop d'illusions que soudain tout le monde va s'embrasser et chanter Kumbaya, mais je pense qu'il y a certaines quand même âmes plus ou moins flexibles qui vont tenter de rejoindre l'autre, mais le clivage va demeurer pendant un certain temps. Ça, c'est mon avis personnel.
Joël Vitiello, vous êtes dans l'enseignement. Est-ce que vous pensez que les étudiants étrangers d'autres États africains vont avoir plus de facilité avec l'administration Biden?
Je pense que ce ne sera pas difficile parce que si on regarde ne serait-ce que dans les derniers mois avec la pandémie, le nombre d'étudiants qui ne pouvaient pas obtenir de visa par exemple, il y a eu tellement de problèmes que les universités américaines ont perdu beaucoup d'inscriptions d'étudiants étrangers qui ont vu aussi leurs rêves, peut-être pas complètement s'envoler, mais en tout cas retardés. Donc je pense que oui, ça va être beaucoup plus facile. Là aussi, un grand soupir de soulagement, je pense, pour les opportunités, ne serait-ce que pour tous les étudiants qui ne sont pas documentés, qui ont vécu un peu l'enfer ces dernières années, qui vont pouvoir retrouver le chemin de l'université pour terminer leurs études. Donc je pense que oui, ça c'est un grand changement. Là, je suis optimiste. Il y a eu énormément de décisions négatives qui ont affecté les étudiants négativement par rapport à l'éducation, que ce soit sur, par rapport aux endettements des frais d'études, par rapport au visa pour les étudiants étrangers. Oui, il y a énormément de choses qui vont changer, je l'espère, pour le meilleur, ne serait-ce que par rapport à tout ce qui est l'aspect discriminatoire d'admission dans les universités, dans l'emploi, etc. Oui, je pense que tout ça va changer. Là, je suis optimiste.
Marcelin, que recommanderez-vous à l'administration Biden dans le domaine de la coopération étudiantine pour espérer avoir plus d'étudiants africains aux États-Unis?
Bon, ce que je recommanderais, c'est presque un retour à la normale de ce qui se faisait dans ce pays depuis toujours en termes de donner des opportunités de visa et d'études à tous les enfants de la planète pour venir étudier ici aux États-Unis. Moi-même qui vous parle, j'ai bénéficié aussi de cette opportunité. Quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2005, c'était pour venir faire des études ici aux États-Unis. C'était ça donc qui était donc la pratique normale. Les États-Unis, donc, avec leur système d'université prestigieuse, ont attiré beaucoup d'étudiants du monde entier qui sont venus donc faire les études ici et retourner dans leur pays, pour certains rester ici et contribuer à l'économie américaine. Il y a eu beaucoup de mauvaises décisions, selon moi, c'est sous l'administration Trump, mais l'une qui a vraiment soulevé le monde universitaire, et heureusement que la mobilisation a fait retirer donc cette décision, c'était la restriction que l'administration donc Trump voulait donc imposer à tous les étudiants sous prétexte de la pandémie du COVID, qui demandait que tous les étudiants qui suivaient les cours online puissent retourner dans leur pays et aller suivre les cours à partir de leur pays. Vraiment, c'est un retour à la normale que je recommanderais, que l'Amérique continue donc de donner des bourses, des visas aux étudiants du monde entier pour venir parfaire leur connaissance ici. Quand on voit donc le train de l'histoire, ça a beaucoup profité aux États-Unis. Beaucoup de grands noms du secteur de ICT, des gens de la Silicon Valley, sont des gens qui ont émigré, venir dans ce pays, venir étudier, et sont restés ici. Et ils ont été à l'origine d'inventions prodigieuses pour l'économie américaine. Donc ça bénéficie aussi aux États-Unis. Ça bénéficie aussi aux pays sources desquels partent ces étudiants, puisque la plupart d'entre eux viennent et ils retournent après avec les connaissances acquises et contribuent donc au développement de leur pays. Donc un retour à la normale que je préconiserais pour l'administration Biden en matière de politique de visa et d'étudiants.
Professeur Colli, pour terminer avec vous, y a-t-il un effort à fournir au niveau de nos pays africains pour former plus d'Africains dans les universités américaines?
Je crois que, comme le disaient mes deux collègues, la liberté de circulation, n'est-ce pas, est une liberté fondamentale. Donc, si nous avons des gens méritants qui pourraient bénéficier de bourses pour aller étudier à l'étranger, je ne vois aucun mal là-dessus. C'est tout le monde qui gagne. Une bourse locale, c'est toujours très bien. Une bourse étrangère, c'est encore très bien. Cela, n'est-ce pas, entre dans le cadre du développement humain de chaque individu. Et je pense que, donc, fondamentalement, il faudrait bien entendu que l'on revienne à la normale d'il y a quelques années, où les plus méritants, qui sont invités à aller étudier ailleurs sous forme de bourse ou qui ont peut-être les moyens de le faire, que cette possibilité soit ouverte au maximum. Je crois que ces échanges sont bénéfiques pour tout le monde, aussi bien le pays d'accueil que le pays de départ. Et pour revenir un peu à cette idée des restrictions qui ont été mises en place il y a un an, j'imagine, cela a été presque la catastrophe pour beaucoup d'universités, parce que quoi que l'on dise, les universités américaines reçoivent un nombre relativement important d'étudiants étrangers qui participent financièrement à la survie de ces universités. Et donc, je crois qu'il faudrait retourner à la case de départ, ouvrir les portes aux étudiants les plus méritants et, n'est-ce pas, faire en sorte que ceux qui veulent rester soient, comment dire, accueillis comme il se doit par rapport à leur expertise. Ceux qui veulent rentrer chez eux, qu'ils soient aussi en mesure de le faire. D'un côté ou de l'autre, je crois que c'est tout le monde qui y gagne et c'est l'humanité qui en bénéficie.
Nous arrivons au terme de cette émission de l'Amérique et vous. Joël Vitiello, professeur de français des études francophones à McAllister College dans le Minnesota. Merci beaucoup.
Juste un exemple, c'est qu'un de nos anciens étudiants, Fred Swaniker, qui a fait ses études chez nous, puis qui est resté aux États-Unis, a créé le African Leadership Network dans plusieurs pays du continent africain pour former les futurs jeunes leaders du continent. Donc il y a aussi beaucoup de retours.
Merci à Marcelin Kofi Ale, conseiller principal de l'administrateur pour l'Afrique au FMI. Je rappelle qu'il s'exprimait à titre personnel dans cette émission. Merci.
Merci, Eric, si tu permets donc un dernier mot. Je voulais dire à Joël que je connais Fred Swanicker et je suis effectivement cette initiative. C'est vraiment bénéfique pour, en termes d'éducation de la jeunesse sur le continent africain. Merci vraiment, Eric.
Merci au professeur Edgar Colley, ancien du Monterey Institute of International Studies en Californie. Merci, professeur.
Merci bien, merci de m'avoir invité à cette émission.
Merci à Lionel Lunamira Gahima qui a assuré la mise en onde. Eric Mandela-Kidza était avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée. À la